Get faster, people, get faster. Hit me.
Bonsoir, vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport, 18e journée, saison 8. Et vous avez fait le bon choix radiophonique. Aujourd'hui, en Africa 22 Sport, en spécial Cana Acte 2, où les invités qui sont là sportivement, qui vont nous donner les dernières actualités sportives de la première journée au pays de Samuel Eto'o. Et après, tout à l'heure, vous aurez une invitée surprise aussi, hein, qui sera sur l'antenne à Arnaud Pellin. Et vous avez fait le bon choix sur Radio Active, www.radio-active.com.
Bonsoir Arnaud Pellin.
Bonsoir Gaël.
Ah, grand plaisir de t'avoir ce soir, Arnaud Pellin, donc président du club de Cesson-Saint-Brieuc Volleyball Côte d'Armor, ce qu'on appelle amicalement et très affectueusement les Bardos de Cesson. Alors comment vont les Bardos en ce mois de janvier ?
Ils vont plutôt bien. Ils vont plutôt bien. On a plutôt bien fini l'année civile 2021, même si on termine sur une défaite à Lyon, mais contre une équipe qui est beaucoup plus forte que nous. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir où est notre place. C'est intéressant de jouer ce genre d'équipe parce que ça nous permet de voir l'évolution qu'il faut encore amener pour jouer un haut tableau dans ce championnat d'élite. Mais on a eu quelques très belles victoires à domicile juste avant, notamment Épinal, qui est une des grosses écuries, et Conflans, qui est aussi notre grosse écurie du championnat, et qu'on a battu très largement à domicile. Donc c'est un bon présage pour cette fin de championnat.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que malgré cette sixième place au classement en ce moment, qui n'est pas des plus confortables, il y a quand même eu une saison où on a eu des très très bons moments à Stereden.
Exactement. Alors après, la sixième place, pour l'instant, elle n'est pas représentative parce que le championnat est très serré et on peut très bien vite se retrouver dans le haut du tableau comme vite se retrouver dans le bas du tableau. Donc elle n'est pas représentative, mais en effet il y a eu des très beaux matchs. On avait le souhait de faire évoluer l'effectif cette saison pour apporter plus de spectacles et aussi gagner plus de matchs. Et pour le moment, on est clairement dans cette optique-là, alors qu'on a connu un début de saison très compliqué entre les blessures et l'obligation de renvoyer un joueur majeur. Et pour autant, on s'accroche et on a toujours notre destin entre les mains. Donc c'est déjà une belle réussite.
Voilà. Alors un match qui se profile quand on joue Marseille. Alors Marseille qui pour le coup est dernier du classement avec peu de points. Hein, ils n'ont pas gagné de points depuis le début du championnat. Malgré tout, je pense que c'est un match que vous abordez avec beaucoup de méfiance, en tout cas d'humilité.
Ah bah de toute façon, il y a une chose qui est claire, hein, c'est que Marseille, c'est une équipe qui nous a déjà battu les années précédentes. C'est une équipe qui a pas beaucoup évolué, mais c'est une équipe qui sait gagner des matchs. Alors ils ont une saison difficile, mais c'est une équipe qu'on doit respecter. Et c'est surtout que nous, on n'est toujours pas un grand de l'élite. On est toujours une structure qui est en train d'évoluer et notre place pour le moment, on se bagarre pour plus être dans les derniers du carrosse, mais voilà, il faut qu'on fasse attention.
Alors dans les derniers du carrosse, comme tu dis, la fin de saison, fin de championnat laissera place au playdown, puisqu'a priori pour les playoffs ça va être un petit peu compliqué, hein, les trois premiers.
On a encore une chance, hein. On a encore une chance d'attraper les playoffs, notamment si on a une première victoire contre Marseille. On pourrait avoir notre destin entre nos mains pour y accéder, mais de toute façon, une fois de plus, l'objectif est pas encore à ça. Pour l'instant, l'objectif est à faire progresser le groupe. On y est, on progresse. Qu'on fasse aujourd'hui des playoffs ou qu'on fasse des très bons playdowns, j'ai envie de dire que ce sera déjà une victoire et ça veut dire que ça validera un certain nombre de nos choix, quoi qu'il arrive.
Conflans n'est qu'à 4 points finalement, c'est pas très loin. Alors, une soirée qui va être forcément un tournant dans la saison, hein, parce qu'une victoire vous projetterait vers quelque chose de très positif. Et puis gagner contre Marseille, ça fait toujours plaisir. Mais c'est surtout une soirée qu'on va voir à Stereden, où on va avoir à la fois le volleyball, mais aussi le basket, puisque le TBCA de Trégueux, les féminines de National 2, joueront juste avant vous. Ça, c'est une très très bonne idée. C'est pas la première fois que ça se met en place.
Alors non, c'est en effet une très bonne idée. C'est pas la nôtre, enfin à la base. C'est une idée qu'on a repris avec Gaël Abbé, le président du Trégueux Basket, qu'on a repris à nos prédécesseurs du Guélo et du Saint-Brieuc Basket. Mais en effet, c'est une très belle idée avec une vraie volonté commune de faire briller le sport de haut niveau amateur à Saint-Brieuc. Et aussi, je tiens vraiment à le dire. Un projet qui est pleinement soutenu à la fois par la ville de Saint-Brieuc, à la fois par la ville de Trégueux et par l'agglomération briochine. Et c'est important parce qu'on n'était pas les deux seuls acteurs. C'est pas uniquement les deux clubs qui se sont mis en tête de réaliser ça, mais c'est une vraie volonté commune de mettre en avant le sport briochin, le sport de haut niveau briochin, et ça va être une très très belle soirée des difficultés.
Le sport indoor a toujours plu aux briochins et habitants de l'agglomération de Saint-Brieuc. Effectivement, tu cites par le passé le Saint-Brieuc Basket, avant lui le COB, et puis il y a également dans le volet donc le Guélo. D'où ça vient cette passion pour le sport en salle? Faut dire quelque part aussi que la salle de Stérélène se prête au spectacle indoor.
Moi, je crois qu'il y a deux choses. En effet, je crois que déjà, on a la chance d'avoir en effet une infrastructure que beaucoup de villes nous envient. Aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir évoluer dans une salle comme Stérélène, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et après, moi, je crois que aujourd'hui, la ville de Saint-Brieuc, tout comme le département 22, tout comme l'agglomération briochine, on aime le sport en général, que ce soit le sport indoor, le sport dehors, le sport collectif, le sport individuel. Enfin, il y a toujours eu une énorme volonté du public de suivre l'ensemble des événements sportifs, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'en effet, on a la chance d'avoir des gens qui répondent toujours présents. Et ça, c'est vraiment une chance. Et c'est aussi quelque chose qui peut permettre à chacun d'entre nous qui avons envie de mener des projets de sport de haut niveau d'avoir de l'espoir parce qu'il y a un public en face. Il y a toujours un public à Saint-Brieuc.
Exactement, il y a un public. Alors, qui dit public en ce moment, il y a quand même des règles très strictes par rapport au Covid, mais on pourra accueillir jusqu'à 2000 spectateurs à Stérélène. Là aussi, j'imagine quand même des dispositions bien particulières.
Alors, il y a en effet cette vraie contrainte qui est des 2000 spectateurs. Alors, c'était un peu l'objectif qu'on s'était fixé avec Gaël, essayer de mettre 2000 personnes dans la salle. Donc on va dire que pour cet aspect-là, on n'est pas on n'a pas de souci. On n'aurait pas fait plus de toutes les manières, je pense pas. Par contre, il y a une vraie contrainte, c'est que on propose un spectacle qui va durer à peu près 5 heures parce qu'on va avoir quasiment 2 heures de basket et quasiment 2 heures de volley, enfin dans l'idée plus l'intermède entre les deux, on va pas pouvoir nourrir les gens dans la salle, on va pas pouvoir leur proposer de buvette, on va pas pouvoir leur proposer de sandwich, on va pas non plus pouvoir leur proposer beaucoup de choses pour animer l'entre-deux, et ça c'est une vraie contrainte qu'on a aujourd'hui et qui fait forcément même si sur le terrain la fête sera là, on pourra pas la rendre aussi intéressante et aussi agréable que ce qu'on avait imaginé.
Ouais, mais on pourra être là et il faut quand même se serrer les coudes, comme on dit, hein, dans ces moments, et puis apprécier aussi, parce que en ce moment, quoi de mieux qu'une belle soirée basket-volley à Stérélène pour sentir la vie autour de soi. Un petit mot sur le Trégueux Basket qui est cinquième en ce moment dans son championnat. Les filles évoluent donc dans la deuxième division nationale,
National 2,
voilà, c'est ça. Et joue contre Tours, qui est une équipe également mal classée, comme l'est Marseille au niveau du volet. On espère donc deux victoires, mais Arnaud, je pense que tu seras d'accord avec moi, on ne vendons pas la peau de l'ours.
Exactement, on espère deux victoires. Le Trégueux Basket évidemment espère gagner pour continuer sa belle saison. Nous on espère gagner aussi pour se relancer à domicile très vite. Après voilà, c'est en tout cas quoi qu'il arrive un très bel événement. En plus, un point très important, c'est que c'est un événement mixte parce que vous allez avoir une équipe féminine qui va jouer d'abord, une équipe masculine qui va jouer après. Donc, on parle de haut niveau, mais on parle aussi un petit peu d'égalité entre tout le monde. Et je trouve ça super chouette de pouvoir mener ce projet avec les filles du Trégueux Basket.
J'espère qu'on aura convaincu les auditeurs de Radioactive ce soir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'affiche est absolument magnifique. Beaucoup de plaisir pour vous tous. Et bien évidemment, on tâchera, nous, Yao et moi-même, d'être présents dans les gradins de Stéréden. Et puis, pour profiter de ce beau spectacle et de ce moment de vie qui va nous rassembler tous. Bonne soirée.
Exactement.
Bonne soirée. À demain, Arnaud.
Merci. Bonne soirée. À demain. Au revoir.
Et tout de suite, on se téléporte vers le Cameroun où Yao est en communication avec Narcisse Ngassam.
Bonsoir Narcisse.
Oui, bonsoir, bonsoir Yao Bandera. Et je vais rapidement passer le bonsoir à tous nos invités, les inconditionnels. C'est pratiquement un fan club que vous avez constitué là en studio. Un bonsoir particulier à l'Algérien Akram Helifati, fan de Fenech. Je vais également saluer Ayman Yadil, fan de Lyon de l'Atlas du Maroc, hein. Sans oublier Alain Elio, fan de Lyon de la Teranga du Sénégal. Eh bien, je vais terminer cette série de Salam Alek par l'incontournable technicien, co-animateur d'Africa 22 Sports, c'est Gaël Manchek, le renard de mon contour. Voilà.
Vous êtes vraiment fait le bon choix radiophonique pour cette 18e journée, acte 2 de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition. Merci, ça fait plaisir. D'abord, là-bas chez toi, au pays de Samuel Eto'o, la température qu'il fait chez toi là-bas?
Oui, il fait chaud, contrairement à l'Europe, hein, qui est encore un peu dans l'hiver. Ici en Afrique, Afrique centrale, précisément au Cameroun, la température est assez chaude, hein. En journée, on atteint facilement les 15 degrés de température dont vous imaginez. Ici, il fait vraiment chaud, contrairement à l'Europe et au Maghreb, parce que je sais que le Maghreb également est dans un climat assez froid qui n'est pas très loin de l'hiver en ce moment.
Bon, Narcisse, on va rentrer dans le vif de sujet, la plus grande fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que tu es 5 fois champion d'Afrique, le Cameroun, les Lions indomptables, et puis c'est la deuxième fois que le Cameroun organise un tel événement, 1972 et cette année. Donc, tu es sportivement logé dans ce groupe A, où tu vas nous faire la lecture tout à l'heure. Je fais allusion comme les étalons du Burkina, les requins bleus du côté de Cap-Vert là, et l'Éthiopie, où la première journée, si tu peux nous faire un débrief, où tu as joué à la maison, je fais allusion Cameroun, étalon de Burkina Faso, où tu as concédé 2-1, Narcisse Ngassam.
Oui, voilà, à tout seigneur, tout honneur, le Cameroun est logé dans le groupe A, et effectivement, nous avons les étalons du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, hein, qui, lors de cette première journée, ont tout logiquement perdu. Quand je le dis, c'est pas par chauvinisme, hein. Il faut quand même reconnaître que sur le plan des côtes, de la côte, hein, le Burkina Faso, quand même, c'était un peu logique. Mais ils ont surpris tout le monde, hein, au stade Paul Biya de Olembe, en ouvrant le camp. Et voilà, ça a tout juste eu le don d'énerver les Lions indomptables qui, et voilà, juste le temps de rentrer dans leur compétition. Vous savez, le début d'une compétition est toujours assez difficile, surtout pour le pays organisateur qui joue devant son public. Et on sait à quel point le public camerounais, il est exigeant. Vous avez d'ailleurs écouté Samuel Eto'o qui parlait aux Lions indomptables l'autre jour avant le match. Il leur disait, le Cameroun qui compte en moyenne 27 millions d'habitants, ça fait exactement 27 millions de coachs.
Merci.
Donc, vous avez intérêt à donner le meilleur de vous pour pas essuyer les critiques acerbes. Et voilà donc pour Cameroun-Burkina Faso. Si on reste dans le groupe A, on va également parler de l'Éthiopie.
Requin vert de Cap-Vert.
Oui, l'Éthiopie qui est tombée devant le Cap-Vert lors de cette première journée 0-1. On va quand même dire que jusqu'ici, pour la première journée dans le groupe A, il n'y avait que le Cameroun qui a marqué plus d'un but. Et c'est un peu...
Narcisse Ngassam, correspondant indétrônable sportif de Africa 22 Sport au pays de Samuel Eto'o, tu es content, 5 étoiles sur ton maillot. On va aller très très vite maintenant, puisque on va faire vraiment la lecture, le côté un peu, et on va rester le côté épidermique de chaque groupe. On va aller très vite du groupe B. Le groupe B, il y a la Guinée, puisqu'il y a plusieurs Guinées en Afrique, c'est Guinée française, Guinée-Conakry, le Malawi, le Sénégal et les Warriors de Zimbabwe. Une lecture vite faite du groupe B, Narcisse Ngassam, du côté de Yaoundé au Cameroun.
Oui, Yao Bandera, je vais très rapidement, avant que de faire la lecture de ce groupe B, dites que le Sénégal, tout comme la Guinée, Conakry, le Maroc et le Gabon, ont rempli chacun son match, mais c'était sûr à chaque fois. Le score s'expliquait de 1 but à 0. Et vous avez le Sénégal qui est venu à bout du Zimbabwe, c'est-à-dire que avec vraiment de la peine, malgré la dream team qu'a le Sénégal, parce que le Sénégal, sur le continent africain, est pratiquement l'une des équipes les mieux structurées poste pour poste, et puis finalement, les Nigériens qui ont vraiment, peuvent se vanter, peuvent se targuer d'avoir les meilleurs effectifs du continent. Et donc, malgré les grands noms du Sénégal, avec les Sadio Mané et tous ces gars-là, ils sont venus à bout du Zimbabwe par un maigre score de 1 but à 0. C'est vrai, ça fait 3 points. Mais sur la balance, au niveau, comme on dit souvent dans notre jargon, sur le papier, le Zimbabwe n'était même pas censé s'en sortir comme ça. Et c'est un peu la même chose avec le Maroc. Je voulais parler du Ghana, du Ghana qui a également perdu face au Maroc. Là, au moins, le rapport de force était assez équilibré. Même si le Maroc est l'une des équipes qui monte en puissance sur le continent. D'ailleurs, vous vous souvenez, janvier-février 2020, les A-primes du Maroc ont remporter le CHAN, championnat d'Afrique, cette compétition continentale qui est la petite sœur de la Coupe d'Afrique qui se joue en ce moment. Le CHAN qui est justement la compétition réservée aux footballeurs qui évoluent exclusivement sur le continent africain. Eh bien, le Maroc l'a remporté au Cameroun l'année passée et à la même période. Et du coup, une bonne partie des joueurs qui ont remporté ce CHAN-là se sont retrouvés surclassés en équipe A. Donc, c'est tout logiquement si le Maroc a battu le Ghana 1 but à 0. Et bien sûr, le score reflète quand même la qualité des deux adversaires. Parce qu'il faut dire que c'est quand même le Ghana des frères Pelé, André et Jordan.
Les frères Youé.
Donc, n'importe comment, ne pouvait pas quand même le battre par un score trop humiliant. 1-0, on va dire que c'est un score plutôt diplomatique. Bon, maintenant, quand je regarde les Comores face au Gabon, il faut dire que les Comores, quand même, c'est une équipe qui est en train de faire ses premiers pas dans la Coupe d'Afrique des Nations, alors que le Gabon, lui, avec Pierre-Emerick Aubameyang et sa bande,
Narcisse Ngassam,
c'est une équipe qui a quand même déjà un certain vécu dans la Coupe d'Afrique.
Narcisse Ngassam, correspondant permanent de Africa 22 Sport Acte 2, de la Coupe d'Afrique des Nations 33e édition au pays de Roger Mia, au pays de Rigobert Songo, au pays de Thomas Nkolo, Joseph Antoine Ben, que des monstres de la légende du football camerounais. On va aller très très vite puisque le temps nous est compté, puisque c'est spécial, Coupe d'Afrique des Nations 33e édition, et on va faire vite fait la lecture du groupe ou l'ogre égyptien du groupe D, et on va finir dès le groupe D, E, F, vite, et Narcisse a donné les résultats stratégiques. Après, on va projeter sur ce qui nous attend ce week-end aussi, du côté de chez Tour Cameroun. Narcisse Ngassam.
Oui, il faut dire que le groupe D,
oui. Rappelons que le groupe D est logé sportivement par l'ogre égyptien, 7 fois champion d'Afrique, la Guinée-Bissau, le Nigeria, 3 fois champion d'Afrique, et les crocodiles du Nil, le Soudan,
une fois champion d'Afrique en 1970. Donc une lecture vite fait, le temps nous est beaucoup compté parce que les invités ont vraiment soif pour vraiment aborder, décortiquer, analyser, faire le côté symptomatique de cette Coupe d'Afrique des Nations. Narcisse Ngassam.
Oui, Bandera, on va quand même boucler très rapidement avec le groupe C, le groupe celui de Comores, du Gabon, de l'Algérie et de la Sierra Leone. Pour dire que c'est de toutes les rencontres de la première journée, l'Algérie et la Sierra Leone, hein, ça a été le match du coup de tonnerre.
Oui.
Parce que l'Algérie, tenant du titre, n'a pas réussi à assujettir la Sierra Leone. Et du coup, un score vierge nul de 0-0 a sanctionné cette rencontre-là. Mais en même temps, il faut quand même dire que la Sierra Leone, qui arrive à arracher le match nul face à l'Algérie, est un peu comme une sorte de récompense des dieux, hein, parce que la Sierra Leone, les grosses primes que le gouvernement sierra-léonais a voulu octroyer aux footballeurs sierra-léonais pour venir à cette Coupe d'Afrique, ils ont simplement choisi de reverser cela, les frais de billets d'avion, ils ont choisi de reverser cela à des œuvres caritatives et de partir de la Sierra Leone pour le Cameroun par bateau. C'est la seule sélection qui accepte un tel sacrifice. Et on peut dire que les dieux les leur rendent bien, un match nul face à l'Algérie, tenant du titre. Bon, maintenant, dans le groupe D, le Nigeria qui est venu à bout de l'Égypte, c'était le choc de la première journée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas meilleure affiche que celle-là. Et c'est une rencontre dans n'importe qui pouvait gagner. Donc la victoire n'était pas facilement pronosticable dans ce groupe D avec, entre le Nigeria et l'Égypte.
Narcisse Ngassam, on va faire un petit bilan pour la projection, puisque le temps nous est beaucoup compté. On te réinvitera pour la prochaine fois. On va faire la projection sur le match du week-end, puisque tu vas nous donner, et tu seras encore l'invité de la semaine prochaine, puisque tu es le correspondant permanent du côté de Yaoundé au Cameroun. Tu vas nous faire vraiment ce week-end qui arrive. Donc, ça sent la projection de ce week-end. Là, je fais allusion. Le match qui va arriver, c'est ce samedi là déjà, hein, j'ai fait allusion comment trois fois champion d'Afrique, les Super Eagles du Nigeria qui vont recevoir les Crocodiles du Soudan. C'est ce samedi chez toi, ouais, au Cameroun.
Oui, les Super Eagles qui sont trois fois champions d'Afrique, hein, au palmarès, et qui d'ailleurs contre l'Égypte l'autre jour, hein, ils ont contre l'Égypte récemment, ça faisait la plus grosse affiche en termes de palmarès, c'était 10 Coupes d'Afrique. Eh bien, le Nigeria va donc déporter ces trois Coupes d'Afrique pour les poser exactement sur la tête du Soudan, qui en a une seule. Hein. Et voilà, ce sera une rencontre assez discutée quand même, parce que le Soudan est l'une des équipes les plus difficilement jouables sur le continent africain. Ils ne sont jamais au top, ils ne sont jamais parmi les vainqueurs, les finalistes, mais c'est une... Même les Lions Indomptables, hein, pour vous le dire, on se voit eu de la peine à venir à bout de ce Soudan-là. C'est une équipe faite de joueurs très résistants qui ont, comme j'aime souvent le dire, les joueurs soudanais ont souvent l'impression d'avoir quatre poumons chacun. Et là où ils sont difficiles à jouer, même s'ils ne sont pas techniques individuelles.
Merci. Merci beaucoup, Narcisse. La prochaine fois, on va aborder ce sujet, puisque on va donner les paroles tout à l'heure aux invités qui vont vraiment aborder les matchs de ce week-end. Je rappelle Guinée-Bissau, Égypte, Gambie-Mali, Tunisie-Mauritanie, les éléphants de la Côte d'Ivoire face au Sierra Leone, l'Algérie et les Fenech tenants du titre face à la Guinée équatoriale. Merci beaucoup, Narcisse Ngassam. On t'envoie la santé, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut jamais nous envoyer les dernières actualités fraîches, croustillantes de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, et on te remettra le Zoom sportif sur l'acte 3 spécial Coupe d'Afrique des Nations, Narcisse. Merci beaucoup.
Merci Bandera, et je vous renvoie également à la santé à vous aussi, Et je termine par dire quand même que la première journée, elle était assez maigre en butin, 12 buts simplement marqués.
Merci beaucoup et à bientôt. Narcisse Ngassam, depuis Yaoundé, au pays de Samuel Eto'o. Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sports, 18e journée, saison 8, et vous avez fait le bon choix radiophonique et spécial Coupe d'Afrique des Nations 2021, acte 2. Tout d'abord, on tient à remercier les invités sportifs de spécial à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai Eman, fan de Lion de l'Atlas, champion d'Afrique 1976. On a Akram Kelifati, tenant du titre. L'Algérie, 1990 et 2019. Et sans oublier, le consultant sportif de Africa 22 Sports, spécial du ballon rond, qui avait suivi la Coupe du Monde en Russie et qui était là la semaine dernière, Alain Elio. Bon, on va démarrer l'émission. Akram Kelifati, plaisir pour la deuxième partie spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Comment vas-tu?
Merci Yao, ça va, merci, bonsoir à toi, bonsoir aux invités, aux correspondants de l'Africa 22 Sport.
On le fait, un petit coucou depuis le pays de Samuel Eto'o. Narcisse Ngassam, il danse, il a gagné sa première journée. Bon, et Akram, ton impression concernant la première journée, dis-nous ton ressenti de ce qui s'est passé là-bas au niveau de Samuel Eto'o, la Coupe d'Afrique des Nations.
Alors on va peut-être me dire que je suis chauvin parce que je regarde cette première journée à travers l'équipe d'Algérie, mais j'ai trouvé que c'était un peu pauvre quand même. Après je pense que ça a à voir aussi avec la météo qui est assez lourde, les matchs de 14h, ils ont vraiment du mal à passer avec certains joueurs, notamment les joueurs qui jouent, qui évoluent en Europe. Ouais, j'ai un peu mitigé, quelques surprises aussi. On va dire que c'est une première journée, ça part bien, mais je m'attends à mieux.
Alain Elio, qui est tout près de toi, Akram, va nous donner aussi, Alain, tes impressions par rapport à cette première journée. Sur quel point tu avais envie de revenir, Alain?
Oui, bonsoir à tous, amis sportifs, amis de la CAN. Donc mes premières impressions, ben c'est vrai que je rejoins un petit peu Akram. En fin de compte, c'est un peu poussif. Hein, c'est le premier tour est un peu poussif. Hein, quand on voit qu'il y a 9-1-0, il n'y a pas beaucoup de buts. Je pense que la préparation a été délicate. Hein, et en plus, il y a le phénomène du Covid aussi qui doit jouer. Et je pense que ça va s'améliorer au fil du temps. Les clubs sont un peu attentistes. J'ai remarqué sur plusieurs matchs, en fin de compte, je pense que la chaleur doit jouer beaucoup et on porte beaucoup le ballon. Je voyais les touches de balle, par exemple, dans deux ou trois matchs, chaque joueur touchait, avant de faire une passe, touche au moins 4-5 fois le ballon et donc ça ne va pas assez vite. Contrairement à notre football européen, en plus c'est pas le même climat non plus, et ça joue beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, et je pense que à partir du deuxième tour, je pense qu'il y aura beaucoup plus. Ça va s'ouvrir parce qu'il va falloir gagner des matchs et donc ça va s'ouvrir un peu plus. Et c'est pour ça que ça a été très attentif. Et là on voit bien 9-1-0, 2-0-0 et une fois 2-1 avec deux buts et en plus beaucoup de pénalties. Donc mais ça va s'améliorer. Puis on va avoir des buts, hein, espérons.
L'analyse de Alain Elio, fan de Lyon de la Taranga, du côté du Sénégal. Donc les choses, tout à l'heure, on va donner, on est dans le concept de l'impression de la première journée, où on a le champion d'Afrique en 1976, du côté de Lyon de l'Atlas. Eman, ça fait plaisir de te revoir pour la deuxième fois consécutive de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ton impression concernant cette journée-là, la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se passe du côté de Narcisse Ngassam au Cameroun.
Alors, bonsoir à vous tous et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors moi, tout d'abord, je trouve que c'est une belle CAN. À titre personnel, je suis très content de revoir le football africain. Voilà, et moi, à titre personnel, je suis content de la victoire du Maroc. Sinon, à part le Maroc, je suis très content du retour de la CAN. Je trouve que tous les matchs, il y a un bon niveau. Et malheureusement, je trouve qu'il fait très chaud. Et juste un truc par rapport à ce qu'il disait Alain, par rapport au niveau, enfin par rapport à l'intensité. Moi, Moi, je pense que c'est un peu normal de que le joueur vienne d'Europe et qu'il joue en Afrique. Bah, il passe de 0 à 30 degrés, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est normal. En plus, c'est le début de la CAN. Les joueurs, ils ont du mal à s'adapter. Ils ont pas encore cette fraîcheur à l'africaine. Donc, voilà, pour moi, c'est normal, quoi.
C'est très très intéressant ce que dit Eman, un fan de Lyon, de l'Atlas du Maroc. On va passer la parole à Akram du côté de Fennec d'Algérie, tenant du titre, pour avoir son point de vue concernant cette lecture de la première journée.
Oui, Yao, je reviens sur l'Algérie, vu que je suis un Fennec supporter impulsif, on va dire. C'est vrai que on a senti sur ce match, la température, les conditions météo, Kaïmen et Alain ont abordé tout à l'heure. Je trouve qu'il fait vraiment lourd de faire jouer des matchs à 14h. C'est compliqué de voir des joueurs les mains sur les genoux à la 35e, 40e minute de la première mi-temps. Je pense que les premiers tours vont passer, deuxième tour arrivant, je pense que la température va baisser un peu et les matchs vont être un peu plus décalé vers l'après-midi, donc on aura plus ce souci-là. Malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de super buts comme à l'accoutumée. On a qu'en Coupe d'Afrique, on a l'habitude de voir des chefs-d'œuvre sortis de nulle part. Là, cette année, première journée, pas de buts comme ça. Il y a eu des buts, penalty, beaucoup de penalty. On sent bien que le démarrage, comme disait Alain, on patauge un peu, mais je pense que ça va venir. Je voulais aussi revenir sur l'arbitrage, Yao. On en parlait il y a 2 ans de l'arbitrage. On était en train de dire que l'arbitrage africain a pris beaucoup, beaucoup de professionnalisme et qu'on commençait à moins voir des actions comme on voyait à certaines époques, des arbitrages achetés, etc. Donc c'est vrai qu'on a fait un super effort sur ça et ça rehausse le niveau des équipes africaines aussi, malgré tout, parce que là on voit vraiment du jeu. C'est le meilleur qui gagne et il faut que ça continue comme ça. Il faut faire la chasse aux brebis galeuses là qui restent. On va encore nous chambrer. Je sais, je vais au boulot, je vais me faire chambrer. Ouais, les Africains, l'arbitrage. Mais là, je pense que ce qui s'est passé entre la Tunisie et le Mali, c'était plutôt du non-professionnalisme que de la triche. On en parlait tout à l'heure. Mais bon, après, c'est des anecdotes africaines qui restent et on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le folklore africain.
Oui, en effet, Akram, je dirais la même chose. Ça fait partie du contexte. Bon, il a arrêté le match à la 86e. Il aurait pu arrêter à la 60e. Donc, non, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est comme ça. Et puis, ça arrive. Donc, moi, je dirais, sur la première journée, j'ai noté quelque chose qui m'a marqué. C'est la première victoire de la Gambie. C'est la première fois qu'ils viennent à la CAN et puis ils commencent par une victoire. C'est superbe pour eux, je pense. Hein. Donc, moi, je découvre la Gambie. Je ne connais pas les scorpions de la Gambie.
Les scorpions, si exactement. Ouais.
Exactement. Et autrement, je dirais que j'ai vu un match quand même qui a dominé un petit peu. Hein. C'était un match de ténor, hein, de tête de série. Donc, le Nigeria et l'Égypte. Bon, j'ai quand même les super Eagles, pas mal. Hein. Il faut attendre pour voir, parce que généralement, dans les tournois comme ça, c'est pas forcément les meilleurs au premier tour qui arrivent à la fin. Donc, bien souvent, c'est plutôt ceux qui sont moyens au début qui arrivent à la fin. On a vu ça en 82 avec l'Italie, qui avait fait 3 matchs nuls, c'était en Coupe du Monde, qui avait fait 3 matchs nuls en 82, qui s'était qualifié parce qu'ils avaient marqué un peu plus de buts, et les 4 équipes étaient à égalité, et ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc, faut pas tirer de conclusions hâtives. Maintenant, comme je disais initialement, ce qu'on veut, c'est que ça démarre à fond et que la deuxième tour commence par un peu plus de buts et on verra.
Ça, c'est très, très, c'est l'analyse technique de notre doyen au niveau de la sagesse du football. On va continuer dans la même lignée avec le supporter de Lyon de l'Atlas, Eman. La lecture de ce match où Alain disait tout à l'heure l'ogre égyptien face au Nigeria, les deux totalisent 10 trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour avoir ton impression sur ce match-là.
Alors moi, sur ce match-là, j'ai trouvé sincèrement le Nigeria au-dessus de l'Égypte, malgré qu'il y a Mohamed Salah, El Nini et quelques joueurs vedettes égyptiennes. J'ai trouvé le Nigeria très performant et sincèrement, c'est une sélection que je redoute en tant que Marocain pour la suite de la compétition. Ça fait partie des sélections où je pense qu'ils iront loin. Après, sur ce match-là, il y a un truc que je voudrais en parler maintenant, c'est vers la 85e minute, je me rappelle, il y avait une contre-attaque nigérienne et il y a un latéral droit, je me rappelle, il regarde le défenseur, il lui demande de lui mettre une passe en profondeur, il lui met la passe en profondeur, il prend le ballon du milieu de terrain et il va avec jusqu'au bout, avec la chaleur qu'il y a, j'ai été impressionné. Du coup, bah moi je me dis, cette sélection, voilà, c'est... faut faire attention, quoi. En tant que Marocain, si on doit les affronter, je pense que c'est une équipe qui est vraiment... Après, il n'y a pas que le Nigeria, il y a d'autres sélections qui ont fait des bons matchs. Mais bon, après, on peut pas trop juger. C'est que la première journée, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut pas trop avoir... On a des équipes comme l'Algérie, ils ont fait une performance moyenne, mais ça veut pas dire qu'ils vont... On peut pas avoir un avis exact. Et moi, voilà,
justement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton équipe, parce que tu parles du Maroc? On va faire un petit tour de table, je ne sais pas ce que vous en pensez. Chacun va donner un petit peu son point de vue sur son chouchou. Hein. Toi, Eman, c'est le Maroc. Toi, ça va être pour l'Algérie. Et puis, Alain, peut-être pour le Sénégal, hein, forcément. Allez, à toi pour le Maroc, Eman.
Alors moi, tout d'abord, pour le Maroc, je suis très satisfait de la victoire. Déjà, 1-0 à la 83e. Je suis très content de la victoire. Après, sur le match, ça a été un match moyen, avec la chaleur, comme on a répété tout à l'heure. Mais bon, le plus important, c'est l'essentiel, c'est les 3 points. Je suis très satisfait. Moi, je tiens à remercier le coach Vahid Alizovic, qui fait un énorme boulot. On est considéré comme l'outsider. Et comme je disais à Yao, à la dernière édition, je préfère être outsider que le favori, parce qu'on est moins vu et on monte petit à petit dans la compétition. Et un autre truc, le Maroc, on est connu par rapport aux stars, Hakim Ziyech ou quoi que ce soit, sauf que là on n'a pas ces stars là et au fur et à mesure de la compétition on verra que Vahid, il a un truc important, c'est qu'il instaure un groupe et pas une équipe. Il va peut-être, dans cette émission, vous connaissez peut-être pas des joueurs de la section marocaine, mais lui, il a contribué à une famille depuis 2 ans. Il s'est qualifié pour les phases finales de la Coupe du Monde. Je crois qu'on a fini la meilleure sélection avec le plus de points, avec 16 points. On a gagné tous nos matchs. Et cette même équipe-là, en fait, il l'a ramené à la CAN. Donc, les gens, ils ont pas été satisfaits parce que c'est pas des stars. Et du coup, là, je regarde contre le Ghana, qui est une sélection, une très grande sélection africaine, et voilà, j'ai vu une bonne solidarité défensive et au final on parvient à gagner, donc moi je suis satisfait. Après, je n'aurai pas un jugement sur le long terme, car en Coupe d'Afrique c'est vraiment match par match, il n'y a pas de petite équipe. Demain on joue les Comores et croyez-moi que si vous me dites que les Comores on va les taper 4-5-0, je vais rigoler tout de suite, parce que ça va... J'espère qu'on va gagner.
Alors, pour rappel, hein, on est légèrement en enregistrement, hein, puisque nos studios pour le moment sont fermés. Alors, le match a lieu en ce moment, hein, le Maroc contre les Comores, hein, puisque ça a commencé à 17h. Et donc, on a hâte justement de voir ce que ça va donner. Un petit mot pour les Fenech d'Algérie avec toi.
Avec Akram. Ouais, je vais continuer sur la même lancée que Ayman. Je dirais même plus, avec l'expérience maintenant et puis l'âge que j'ai, Ayman, c'est un jeune, je pense qu'il n'a pas vu autant des Coupes d'Afrique que moi. J'ai toujours vu, moi, des Coupes d'Afrique à 2 vitesses. Donc il y a toujours les premiers matchs de poule. Et en fait, la Coupe d'Afrique commence à partir des 8e. Et ça a toujours été comme ça. Historiquement, ça a toujours été comme ça. C'est les équipes qui vont réussir à sortir des poules. Et c'est là où la Coupe d'Afrique commence, parce que après, de toute façon, c'est de la mort subite. Donc là, ils ont pas autre choix que d'attaquer. Je vais sur l'Algérie, entre guillemets. Donc je reviens à l'Algérie. Moi, l'Algérie, ça m'inquiète pas trop. C'est vrai qu'on dit, ouais, les Fenech, favoris, etc. On prend le melon, etc. Mais non, je suis pas si inquiet que ça. En fait, ce qui me rassure, en fait, c'est le rendement des autres équipes. des grosses équipes. Là, on parle du Ghana, on parle de l'Égypte, on parle du Nigeria, certes, qui ont fait un super match, hein, je le cache pas. Mais je suis pas inquiet parce que malgré le match nul qu'on a fait, l'équipe a montré pas mal de choses quand même, hein, mine de rien, sous cette chaleur de plomb. Les joueurs, ils se sont quand même donnés. On a vu quelques phases de jeu et n'oubliez pas, hein, on avait notre milieu qui a été complètement recomposé avec Brahimi, avec Ben Hasser absent, ouais, Ben Kebla. Après, moi, je suis pas inquiet du 0-0. Ça reste toujours un point de prix. Et puis, maintenant, il faut qu'on attaque. Et la finale de ce groupe, ça se jouera la dernière journée, je pense, entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie pour la première place. Et je suis pas inquiet.
Alain, le Sénégal.
Alors, le Sénégal, en fin de compte, les Lions de Teranga, ils ont eu. Pour moi, ça a été quand même assez délicat comme premier match. Ça a été équilibré. Hein, parce qu'en plus, ils ont gagné juste à la fin, à la 97e minute. Ça rejoint ce que je disais au départ. C'est pas encore lancé. Je pense que ce sera une équipe qui sera pas loin de l'arrivée. Hein. Espérons pour eux. Espérons pour moi en tant que supporter. Mais c'est difficile à juger. Difficile à juger en premier match. Parce que j'ai bien aimé les Warriors, hein, le Zimbabwe. Là. Zimbabwe. Quand je vois les statistiques, ils ont été pratiquement aussi bons que le Sénégal. Hein. En sauvetage de gardien, c'est 2-2. Donc, ça veut dire qu'ils méritaient autant que le Sénégal. Ça aurait pu finir par un 0-0. Donc, maintenant, naturellement, on verra à partir du deuxième tour ou troisième match. Bon, peut-être que mon avis va sûrement changer, et j'espère.
Là, concernant cette 33e édition de la plus grande fête du football africain, moi, mon humble avis, hein, ça c'est que mon opinion, je crois que vraiment la star de cette édition au pays de Samuel Eto'o, j'insiste encore et je persiste que c'est la nivellisation. Parce qu'on voit l'écart au niveau des scores de la première journée, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0 et... dit que la petite équipe, tu parlais tout à l'heure, les Warriors, on les appelle du côté de Zimbabwe, c'est du football académique du côté culture britannique, anglophone. Et lorsqu'on voit les Scorpions de la Gambie, je fais allusion, on va faire sous forme de synthèse de toutes ces équipes, les Scorpions de la Gambie, moi c'est le parfum du côté de Madagascar, pour ne pas dire les Zébus. Première participation, premier baptême. Ils marquent leur territoire. Et là, on parle du côté aussi tout à l'heure, et Eman, du côté de Lyon de l'Atlas, lorsqu'on voit, on dit que ça bat en Timoré. Et là, avec maigre de but, c'est tout à fait normal parce que côté température et puis en même temps au niveau des conditions sanitaires, les choses vont aller en crescendo. Ça, c'est mon humble avis. Et là, les autres matchs qui vont venir dans la deuxième journée, on abordera. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il en pense, Gaël Manchek, mais moi, je pense que, j'insiste une fois encore que le niveau des équipes africaines, il n'y a plus de petites équipes africaines. C'est-à-dire, tout le monde a faim. Voit des scores stratosphériques 5-0, 4-0. Là, je pense que ça a beaucoup, la nivellisation a beaucoup, beaucoup progressé.
Yo, on va marquer une courte pause musicale et puis on va rejoindre tout de suite James Kerrel qui nous attend pour lui aussi analyser cette CAN. James qui est un auditeur averti et surtout un technicien et un grand spécialiste du foot africain. À tout de suite.
Amuna yeye, Amuna yeye, Kuzma, Sama Kosa. Tanga tanga, umbuta tanga, le Sama Kosa. Nikaso.
Voilà, après cette petite coupure musicale africaine, on retrouve un spécialiste de l'Afrique avec James Kerel. Bonsoir James.
Bonsoir Gaël, bonsoir.
Alors James, j'imagine que tu es très heureux avec cette CAN en ce moment, et tu es très heureux de voir que la Gambie a gagné son premier match. Tu étais toi-même récemment en Gambie.
Oui, tout à fait. J'y suis allé il y a très très peu de temps. J'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer pas mal de personnes là-bas. C'était bien sûr pour le football. Et comme je te l'avais dit lorsque la dernière fois que je suis passé sur ton émission, ça pouvait être une bonne surprise parce que c'était une équipe très intéressante, technique, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et c'est vrai que c'est leur première participation à cette CAN. Et c'est un football qui se rapproche bien sûr de celui du Sénégal, dans la mesure où c'est bien sûr les mêmes, tu sais, du même côté, c'est collé l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'on retrouve des spécificités qui sont comme l'équipe du Sénégal, avec des individualités intéressantes. Et c'est pour ça que j'en parlais comme une équipe surprise. Et je ne suis pas plus étonné que ça de cette victoire, en tout cas.
James, c'est re-salut. Donc, au niveau de la Gambie, après cette première victoire, parce que c'est la première fois qu'ils sont à la CAN, hein, si j'ai bien compris. Première participation, donc ils ont gagné 1-0. Et bientôt, ils vont rencontrer les autres vainqueurs de ce groupe, le Mali. Quel est ton avis sur ce prochain match?
Tout à fait. Ça va être un match compliqué. Le Mali, c'est une valeur sûre. Hein. C'est une des équipes quand même importantes de cette CAN. Mais je pense que c'est une équipe qui va quand même leur poser... qui leur posera quand même des problèmes. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment bien équilibrée et comme je le disais tout de suite à Gaël, ça peut être vraiment une équipe vraiment surprise et on sait que ils se sont vraiment bien préparés. Ils ont envie de montrer toute leur capacité pour leur première participation. Et ce match-là va être vraiment intéressant par la suite, quoi. Je pense que ce match-là, ce sera la finale du groupe, si tu veux.
Ah oui. Et il y a des joueurs qui dominent la Gambie, là, parce que je connais pas trop la Gambie. J'ai pas vu le match, en fin de compte. Je peux pas analyser.
J'ai pas vu le match.
Quand ils ont gagné 1-0 contre la Mauritanie, là. Mais, il y a des joueurs qui jouent en Europe ou il y a quelques bons joueurs ou...
Alors, t'as des joueurs qui sont vraiment intéressants. Tu vois, il y a quand même des joueurs qui jouent il y en a un qui joue à Bologne, par exemple, qui s'appelle Moussa Ballo. Ah oui. Qui est un joueur très intéressant et qui est vraiment un vrai buteur. Et c'est vrai que c'est un garçon qui peut faire vraiment des différences. Et c'est une des attractions de cette équipe, si tu veux.
D'accord.
C'est une des attractions de cette équipe. Il y a d'autres joueurs aussi. Bon, il y a, comment ça s'appelle, Signam, qui est un joueur que j'aime particulièrement bien. Derrière, ils ont un joueur qui s'appelle Mbaï aussi, qui est très intéressant. Mais tu sais, ce sont pas des joueurs qui s'exportent forcément beaucoup. Mais par contre, c'est un pays qui commence à vraiment bien travailler. Et ils me font penser à un autre continent, à un autre pays qui met beaucoup de moyens pour y arriver. Et je pense que cette équipe-là, dans l'avenir, sera une des très bonnes équipes africaines.
Ok, ok.
Alors, James, tout à l'heure, on va changer un petit peu de sujet. Lorsque on s'est eu au téléphone, tu m'as parlé d'une petite anecdote que tu avais pour nos amis d'Algérie avec les Fennecs.
Oui, non, mais c'est une anecdote. Je voulais pas parler d'une anecdote actuelle sur l'équipe de l'Algérie, qui pour moi fait partie bien sûr des deux favoris de cette CAN. J'ai eu la chance inouïe, je dis bien inouïe, de manger avec Benoumi. Benoumi, pour ceux qui connaissent bien le football algérien, c'est certainement le plus grand joueur qu'a eu l'Algérie. Il a fait partie, par exemple, des 4 meilleurs joueurs du siècle africain, il faut le savoir. C'est pour donner une idée du joueur que c'était, c'est l'inventeur, par exemple, vous voyez, de la passe à Babu. C'est lui qui l'a inventé. Il y avait Majder et sa talonnade. Et ben, il y a un autre joueur algérien qui a marqué son empreinte par la passe aveugle. Et c'est tout juste un monument de ce pays. Et c'était un joueur incroyable. Il n'a jamais pu venir en Europe s'exprimer. Mais en Afrique, c'est une véritable légende. Et j'ai eu l'occasion de manger avec lui. À l'époque, il jouait à Mascara, qui a été son club phare. Mais c'est tout juste un véritable monument du football algérien.
Et donc, bon, tes favoris, tu as parlé un petit peu là. Donc, je pense que tu as mis l'Algérie en favori, naturellement.
Oui,
et tu vois quoi autrement?
Ben, bien sûr, le Cameroun à domicile. Le Cameroun a eu beaucoup de difficultés pour commencer sur ce match-là. Je t'avouerai même que le gardien Oana m'a fait peur dans son premier match parce que j'ai trouvé qu'il a été très très moyen. Aujourd'hui, tu t'aperçois qu'effectivement, il faut un gros match, un très gros match. Et c'est vrai que, tu gagnes 4-1, tu mets 3 tirs sur les poteaux avec un joueur, bien sûr, un capitaine exemplaire avec Aboubakar notamment, et là tu t'aperçois que cette équipe là commence à tourner à plein régime, et effectivement jouant à domicile en plus, je pense que ce sera une des grosses équipes attractives, et c'est eux peuvent aller bien sûr très loin.
Et que penses-tu du Nigeria et du Nigeria?
Oui,
et
alors du Sénégal. Oui, j'y suis allé, il y a pas, Gaël le sait, je suis revenu du Nigeria il y a exactement une dizaine de jours, et c'est vrai que c'est un très très grand pays de football avec une équipe très intéressante. On aurait même pu avoir un joueur en direct, vous voyez, c'est Enda qui n'a pas participé au premier match mais que je connais fort bien, qui est dans la sélection, et pareil, ça c'est une équipe costaud. Ils reviennent un peu sur le devant de la scène, ils ont eu une traversée du désert. Parce qu'on sait qu'avec tous les joueurs qu'on a connus, hein, et que vous connaissez, Okocha, Amenike, et j'en passe, bien d'autres. Et là, ils reviennent sur une nouvelle génération qui est intéressante. Et je pense qu'on a retrouvé une équipe du Nigeria bien plus complète que celle des dernières années.
Parce qu'il n'y a pas eu photo contre l'Égypte. Hein. Le Nigeria a
deux. Oui, alors justement, c'est la grande déception. Ouais. C'est la grande déception pour moi. L'Égypte m'a beaucoup déçu. Bon, on sait qu'elle est moins bien depuis un moment. Ça, pour ceux qui suivent un peu l'Égypte, on sait que bon, c'est la grosse équipe, vous savez, du continent africain, notamment sur les performances à la CAN. Hein, elle est détentrice du record. Mmh. Ouais, tout à fait, avec des parcours toujours incroyables. Mais là, on les a sentis vraiment pas bien. Ça suit logique un peu des événements qui se passent avec cette équipe-là. J'ai trouvé Mohamed Salah complètement éteint par rapport à ce qu'on peut connaître de lui. Et effectivement, je suis déçu de cette prestation.
James, un petit mot sur les Comores, une délégation qui nous tient à cœur. Je rappelle pour nos auditeurs que lundi, lors de l'émission Midi à l'Ouest, vers 12h45, vous pourrez retrouver l'interview exclusive de Nakibou Aboubakari, le briochin, qui est en ce moment dans la délégation du Comores, qui joue contre le Maroc. On reviendra au Maroc. Un petit mot sur les Comores, James.
Bah écoute, j'ai trouvé le match, c'était pas trop mal contre le Gabon effectivement, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un manque d'efficacité sur cette équipe-là, et qu'à un certain moment tu voyais bien que ça aurait été compliqué pour eux de marquer. Ils ont eu des joueurs qui ont été très intéressants, comme Mdaoma a fait un très bon match, hein, il est sorti à un quart d'heure de la fin, mais celui, ça a été vraiment très très bien. Et tout le système défensif avec Zahari aussi qui était très intéressant. Mais offensivement, tu t'aperçois que ce soit Mohamed Youssouf ou bien bon, c'est vrai que M. Changama, ça n'a pas été trop mal, mais ça n'a pas été performant sur la finition. Et finalement, le match, il est logique avec la victoire du Gabon. Il est logique sur l'ensemble de, pour moi en tout cas, à titre personnel, sur ce match-là.
Ouais. Ayman, qui est à côté de moi, va te poser une petite question sur le Maroc.
Moi, j'aimerais savoir, sur ta vision, qu'est-ce que t'en penses de l'équipe nationale marocaine? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le Maroc est capable d'aller loin dans cette compétition? Par rapport au premier match, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, ça va être. Moi, je pense que c'est une équipe qui ira loin dans cette compétition-là. Je trouve que c'est une équipe qui est quand même avec un coach qui est, tu le sais aussi bien que moi, qui impose une discipline importante, qui a amené quand même beaucoup de choses à cette sélection-là. Et je pense que sur la longueur de la compétition, ça peut être quand même une équipe qui peut aller très très loin. C'est pas une équipe facile à manœuvrer. Et ce qui est intéressant sur cette génération du Maroc, c'est aussi, si tu connais, bon, tu connais bien le football marocain, c'est la génération qui arrive derrière. Par exemple, tu vois les U20 du Maroc, c'est très très bon. C'est un pays qui travaille bien, c'est un pays qui travaille super bien sur l'avenir, mais sur l'équipe nationale actuelle, bon, il y a quand même des joueurs quand même talentueux. Aguerre, c'était pas mal sur ce match-là. Tu prends comment il s'appelle, Amala, ça a été quand même aussi très, moi je trouve intéressant. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui,
intéressant.
Sofiane
et Boufal qui a été vraiment très bon aussi. Moi j'ai aimé Boufal.
Il y a aussi comment il s'appelle. Il y a Achraf Hakimi aussi du PSG.
Ah bah oui, mais là c'est pas une surprise. Hein. Tu sais aussi bien que moi, c'est une pointure mondiale. C'est un joueur qui joue au PSG. Il est habitué à ses grands matchs tout le temps, si tu veux.
Désolé.
Pour moi, c'est très intéressant. Ils ont une profondeur de banc qui est pas mal aussi. Hein. T'as une profondeur de banc parce que tu vois, Amrabat qui est rentré, par exemple, ben c'est quand même intéressant.
Et désolé de te couper, il y a eu 5 absents dont Ryan Mahé, l'attaquant camerounais marocain.
Oui.
Les deux nationalités, lui, personne ne le connaît. Mais moi, je tiens à le dire dans l'émission d'aujourd'hui. Retenez son prénom, Ryan Mahé, camerounais, marocain. Et vous allez voir, il fera beaucoup parler de lui. Il y a Boufal, il y a Ayoub El Kabi aussi qui n'était pas là. Il y a eu des absents pour le Covid, mais ils vont être de retour. Et ils sont vraiment pas connus du monde entier ou du monde africain.
Si, moi, je me connais. Je sais parce que j'ai des attaches avec le Maroc et puis c'est vrai que j'échange souvent avec quelqu'un qui est un joueur marocain d'ailleurs
franchement je vois que vous êtes un très très grand connaisseur.
Oui,
t'as gagné un fan, James.
J'échange souvent avec un ou deux joueurs internationaux notamment et on parle de cette parce que le Maroc est un très grand pays de football, c'est un pays de passionnés et ce qu'il faut dire, il faut reconnaître la politique de la fédération. Ils ont un nouveau président de fédération qui est tout juste incroyable, quelqu'un qui impose, et sur le programme de développement, ce qu'ils ont fait, même au niveau des académies, tu regardes des académies qu'ils ont montées, l'académie Mohamed VI, pour ceux qui connaissent, c'est tout juste fantastique. Quoi.
Ouais. Merci infiniment, James. C'était un vrai plaisir de t'entendre. C'est vrai qu'un regard aiguisé sur la CAN, on est beaucoup de fans autour du micro. Alain, qui est près de moi, veut te passer un dernier mot.
Non, c'est vrai. Merci. Qu'on a apprécié tes commentaires et tes critiques. C'est bien. Mais bon, je suis heureux de t'écouter. Hein. J'espère qu'on va se revoir un de ces quatre, hein, qu'on boira un bon petit café ensemble. Mais bon, bonne
situation,
James.
Au
plaisir de te revoir.
Oui, bien sûr. Et je te cache pas, je lis tous tes commentaires sur le stade Briochin. Parce que tu as souvent un regard très avisé et très réaliste sur la situation. Quand les matchs sont bons ou moins bons, tu es toujours, et ça m'étonne pas de toi, ça prouve que tu connais encore très bien le football et que ça rejoint le très bon joueur, pour les gens qui écoutent, Alain Elio était un très très bon joueur de football et ça m'étonne pas que sur tes commentaires ce soit aussi efficace.
Merci beaucoup, James. On passe à la parole à Yao pour terminer cette émission. On se revoit d'ici la fin de la CAN, hein, la semaine prochaine et puis peut-être aussi pour la dernière journée de la CAN. À bientôt, James.
Oui, à bientôt, et si vous désirez un invité en direct, on pourra faire ça également.
Ça marche, merci James.
Merci, bonne soirée. Keep pass, people, keep pass, hit me.
Merci, on tient une fois encore remercier le correspondant sportif de Africa 22 Sport, où il est connecté depuis Yaoundé au Cameroun, Narcisse Ngassa. Sans oublier les invités qui étaient physiquement dans cette émission de spéciale Coupe d'Afrique des Nations Acte 2. Je fais allusion à Monsieur Kelly Patti et Yadil aussi, hein, Alain Elio. Et qui dit la 18e, ça veut dire la 19e n'est pas loin, où on aura la chance d'avoir Stéphane Constant pour parler du Trek Glazik. et de Gaël Abbé aussi, hein, du Trégueux Basket Club Côte d'Amour. Et sans oublier aussi James Kerel aussi qui était là tout à l'heure pour nous donner les analyses techniques de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup. Le technicien El Soro, le renard de mon contour, on remercie le grand technicien. Et vous avez fait le bon choix radiophonique. Comme on dit là-bas, vive en sport et surtout, soyons peuplés.